Apparently they have flown a couple of planes into the World Trade Center already, and it looks like they're going to take this one down as well. Mostly, I just wanted to say I love you.
Raphaël, c'est un des... Il y a de nombreux appels qui ont été enregistrés de gens qui étaient dans des avions le 11 septembre 2001. Et ça, c'est l'appel ultime d'une des victimes.
Absolument. Qui réalisait que son avion, de un, avait été piraté et que, de deux, de façon presque inévitable, allait le conduire à la mort. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'était une des victimes du vol United 93. Ça, c'est l'avion sur les quatre qui s'est écrasé en Pennsylvanie.
Ça, c'est le vol dont on soupçonne. Mais en fait, on sait que les passagers ont réussi à pénétrer dans le cockpit et dans la bagarre, ben, l'avion a crash.
Exactement. Donc, écoute, on commémore ça aujourd'hui. Ça fait 18 ans. Et c'est drôle parce que quand j'étais aux États-Unis, quand j'habitais là-bas, j'avais un prof d'une soixantaine d'années qui me disait que dans sa vie, il avait vécu deux événements lors desquels tout le monde se souvenait où ils étaient. Le premier, c'était l'assassinat de John F. Kennedy. Mm-hmm. Le deuxième, c'est le 11 septembre. C'était vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi. On s'en est pas parlé avant d'entrer en onde ensemble, mais je suis prêt à te gager n'importe quoi que si je te demande t'étais où, tu vas pouvoir me le dire.
J'étais dans la douche.
C'est-tu vrai, ça?
Oui.
Comment tu l'as appris?
J'étais dans la douche et avant d'entrer dans la douche, j'écoutais Paul Arcand. Mm-hmm. Et Paul a annoncé qu'un petit avion avait frappé le World Trade Center parce que c'est comme ça que la nouvelle est sortie, un Cessna, là. Et là, je suis dans la douche et j'écoute encore la radio, j'écoute encore Paul. Et là, Paul annonce que non, c'est un deuxième avion qui vient de frapper et c'est un avion de ligne. Mm-hmm. Et là, comme tout le monde, j'ai pris l'ampleur immédiatement de ce qui se passait. Toi, c'était comment?
Moi, j'étais au cégep, en fait, et c'est quelqu'un, on était sur l'ordinateur, quelqu'un qui est rentré dans la pièce où on était en disant « il y a un avion qui vient de rentrer dans le World Trade Center ». Et comme tu viens d'expliquer, et c'était vrai pas juste pour toi et moi, c'était vrai même pour la Maison-Blanche. Après le premier avion, personne pensait que c'était un attentat terroriste. Ça a pris le deuxième pour que là, il y ait un déclic et qu'on se dise « on est sous attaque carrément, l'Occident est attaqué ».
Mais Raphaël, ta pratique professionnelle, c'est d'étudier les États-Unis, la politique américaine, la place des États-Unis dans le monde. S'il n'y avait pas eu le 11 septembre, les Américains en seraient où aujourd'hui?
Comment savoir? Premièrement, il y a très, très fort à parier qu'ils ne seraient jamais, en tout cas pas en 2003, allés en Irak, ne seraient pas allés en Afghanistan en 2001. Écoute, on s'est parlé deux fois au courant de la dernière semaine de l'Afghanistan. Ça fait 18 ans que ce conflit-là dure. Il y a des Américains qui meurent encore. Il y a plus de 100 Canadiens également qui sont morts. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les impacts géopolitiques, ils ont touché tout le monde. Ça a changé le cours de la trajectoire du monde carrément.
Tu sais, ça a replacé les pièces sur l'échiquier mondial. Ça a forcé les Américains à aller en Irak, en Afghanistan, dépenser des... En anglais, on va dire des trillions. En français, ce sont des billions de dollars, des milliers de milliards de dollars là-dessus, sur ces guerres-là, qui, à mon sens, n'ont pas servi à grand-chose. Dirais-tu que... Puis je sais que c'est une question épouvantable, là, mais dirais-tu que Ben Laden a gagné?
Écoute, tu me laisses un peu bredouille parce que ça dépend comment on la prend, cette question-là. À certains égards, très certainement. Il a gagné le 11 septembre 2001, ne serait-ce qu'en réussissant le pire, le plus mortel des attentats terroristes en sol américain de l'histoire des États-Unis. En même temps, les États-Unis ont quand même eu le dernier mot en capturant, en mettant fin à la vie de Ben Laden.
Oui, en effet, c'est vrai. Mais quand je dis que Ben Laden a gagné, là, il a forcé... Écoute, d'abord, il a forcé les Américains à aller dépenser des milliers de vies au Moyen-Orient. Il a forcé les Américains à dépenser des milliards et des milliards de dollars en Irak, en Afghanistan. Et cet argent-là, là, ces Américains l'avaient investi chez eux. Là. Tu comprends? D'abord,
absolument,
juste là, OK? Et après, il a réussi partout en Occident à instiller, pas chez tous les citoyens, mais chez une masse critique de citoyens, à implanter dans le cœur de millions de gens la peur des musulmans en général. Et cette peur-là est devenue une force politique qui braque les musulmans et les non-musulmans un face à l'autre.
J'allais te le dire, ça, parce que lorsqu'on parle des impacts du 11 septembre, le premier réflexe, ça va être parler d'impact politique, d'impact géopolitique, comme on l'a fait. Mais les impacts sociaux sont beaucoup plus larges que ça et ils perdurent. Donc, la question, effectivement, du traitement et juste la perception des musulmans a changé de façon irrévocable cette journée-là. Et ça, c'est pas vrai seulement aux États-Unis. C'est vrai ici. Et c'est vrai en Europe. Il y a combien de pays en Europe qui sont aux prises avec cette problématique-là qui est en train d'empoisonner le débat social, l'atmosphère sociale? Donc, est-ce que c'est seulement le 11 septembre qui a fait ça? Peut-être pas, mais ça a joué un rôle absolument critique là-dedans qui se fait ressentir, encore une fois, deux décennies plus tard.
Et puis, tu sais, cette peur-là aux États-Unis a eu des effets très concrets, juste sur le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants là, qui veulent aller aux États-Unis. Okay? Les meilleurs étudiants au monde ont toujours voulu aller dans les universités américaines. Bien là, ça a poussé les Américains à demander à leurs dirigeants politiques de resserrer l'immigration en général, mais aussi l'immigration de ces étudiants-là. Et ça, je suis convaincu que sur des décennies, là, ça fait des milliers de PhD de moins, des milliers de brevets de moins, etc., etc. C'est une frilosité qui va leur coûter cher.
Lorsque tu parles de frilosité, il y a aussi la frontière. On oublie ça, là, mais simplement le fait de devoir maintenant avoir un passeport pour passer la frontière américaine. On n'avait pas ça avant le 11 septembre. C'est un résultat du 11 septembre. Les longues files d'attente aux aéroports, enlever sa ceinture, ses souliers, c'est après le 11 septembre. On l'oublie, tu sais. On parle aussi d'impacts très larges, d'impacts sociaux. Il y a des impacts quotidiens très, très simples qui sont devenus presque anodins, mais qui sont des résultats qui reste encore à ce jour très concret, très simple de ces attentats-là. Je me permets aussi quelques mots sur la présidence Bush, parce que le président en fonction était George W. Bush. Dans les lendemains immédiats des attentats, a été extraordinairement rassembleur, avait notamment donné un discours à une mosque moins d'une semaine après les attentats pour défendre l'islam comme religion, avait un taux d'approbation de 90%, taux record, et pourtant, 18 mois plus tard, a pris la décision d'envahir l'Irak. Ça a empoisonné le reste de sa présidence.
Ou Raphaël Dick Cheney a pris, lui, la décision d'envahir l'Irak.
C'est pour une autre journée, ce débat-là.
Les 16h57.